Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Sarema, à la préfecture de Mopti, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Les attaques terroristes contre les forces armées maliennes se poursuivent. L'état-major général a annoncé avoir déjoué dimanche à Sévaré une attaque terroriste contre le camp de la garde nationale. Le chef adjoint de l'ONU est arrivé dimanche à Bamako pour une visite de 5 jours. Jean-Pierre Lacroix échangera avec les autorités de la transition sur le nouveau mandat de la MINUSMA. Les résultats du diplôme d'études fondamentales DF seront proclamés d'ici la fin de cette semaine. L'information a été communiquée par le ministère de l'Éducation nationale. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Nuhum Ndjiri. Je vous le disais dans le titre, un terroriste neutralisé du matériel récupéré. C'est le bilan provisoire d'une tentative d'attaque ce dimanche 24 juillet contre le camp de la garde nationale du Mali à Sévaré dans la région de Mopti. Les forces armées maliennes annoncent avoir déjoué l'attaque. Au même moment à Kati et à Ségou, de nombreux suspects ont été arrêtés par les forces armées maliennes. Ces attaques terroristes ont été fortement condamnés à l'intérieur et à l'extérieur du pays par des partis politiques et des partenaires du Mali. Moussa Mali Sissoko.
À Mopti, les FAMA affirment avoir déjoué une fois de plus une tentative d'attaque contre le camp de la garde nationale de Sévaré. Elle précise que c'était ce dimanche 24 juillet 2022 vers 5h du matin. Dans un tweet, l'armée malienne avance un bilan provisoire d'un terroriste neutralisé. Un PKM et des roquettes ont été récupérés. Le ratissage est en cours dans la zone, poursuit la note d'information. À Ségou, deux suspects terroristes ont été arrêtés ce samedi 23 juillet dans la commune de Pelengana. Selon des sources locales, l'un des suspects, dans sa tentative de fuite, s'est jeté dans un puits avant d'être retrouvé par les éléments de la protection civile. L'autre a été appréhendé près d'une maison inachevée où il s'était retranché, précisent les témoignages. Les deux présumés terroristes ont été remis aux forces de défense et de sécurité qui poursuivent les investigations. À Kati, les arrestations des suspects de l'attaque contre le camp Sundiata se poursuivent. Ce week-end, les forces armées maliennes ont interpellé plusieurs supposés terroristes aux environs de la ville. La MINUSMA et les États-Unis ont condamné ce série d'attaques complexes et simultanées contre les emprises des forces de défense et de sécurité du Mali. Des partis politiques et organisations de la société civile ont regretté ces actes qu'ils qualifient d'ignobles et barbares.
Un compte-rendu signé Moussa Mali Sissoko. Toujours sur le même sujet, ces actes criminels synchronisés des terroristes visent à désarticuler la cohésion au sein de l'armée malienne. Cette déclaration a été faite par Ibrahim Soumaré, spécialiste des stratégies internationales. Pour cet ancien ambassadeur, il faut renforcer la collaboration entre les populations et les forces armées maliennes en évitant l'amalgame. Nous l'écoutons.
Cette capacité de la population également à garder le sang-froid et surtout à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Ces opérations criminelles, à la fois de communication pour eux, pour dire qu'ils existent malgré les pertes matérielles et humaines qu'ils subissent, et c'est également créer une psychose au niveau des populations. Je crois qu'il y a deux choses qui peuvent aider. D'abord, au niveau des réseaux sociaux, dans une situation d'urgence, il faudrait faire très attention à la diffusion de certaines informations et laisser la priorité à la direction de la presse des armées de diffuser les informations. Il ne faudrait pas que l'amalgame vire à une chasse aux sorcières et que tout le monde soit soupçonné d'être un ennemi de ce pays-là.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. À Menaka, des échauffourées entre une partie de la population et un groupe armé ont fait un mort et des blessés. L'incident a eu lieu ce week-end dans la ville. Cette situation a amené l'armée malienne à quadriller la ville de Menaka, ont rapporté des sources locales. Toutefois, elles indiquent que la tension est restée encore vive ce dimanche dans la localité où les commerces sont toujours fermés malgré les interventions des autorités administratives. Les détails avec Imirana Kilomaïga, avec la voix 2, Aboubakrine Ag Mohamedine Yattara.
Tout a commencé ce samedi aux environs de 11h quand un groupe de jeunes manifestants contre les raquettes sur la route Gao-Meneka se sont attaqués à des combattants d'un groupe armé. Dans la foulée, les combattants armés ont procédé à des tirs de sommation pour disperser la foule, a annoncé un des responsables du groupe armé. Une femme et son bébé qu'elle portait au dos ont été touchés par balles. Ces tirs ont dégénéré la situation et la manifestation s'est élargie dans toute la ville. Une autre personne a été tuée, lynchée par les manifestants. Aussitôt, l'armée malienne a quadrillé la ville pour tenter de ramener le calme. Mais ce dimanche, les mêmes sources locales expliquent que la tension reste tendue dans la ville. Les rues sont désertées, les commerces fermés. En outre, une réunion s'est tenue dans la même journée au gouvernorat de Meneka. L'objectif, selon les autorités administratives, vise à trouver les voies et moyens pour calmer les esprits. Ce dimanche matin, l'armée a été de nouveau redéployée au centre-ville pour rétablir l'ordre. Des concertations sont également en cours entre les autorités intérimaires, les jeunes ainsi que la société civile.
Parlant toujours d'insécurité, sur la route qui mène à Meneka, deux corps sans vie ont été retrouvés ce dimanche dans le village d'Assor, situé à 10 km de la ville d'Ansongo. Il s'agit d'un vieillard et un garçon, rapportent des sources locales. Les causes de leur mort restent pour le moment inconnues. Au centre du pays cette fois-ci, 6 personnes ont trouvé la mort ce samedi dans un accident sur la route Badjangara-Koro. L'information a été communiquée par la protection civile de la localité. L'accident a été provoqué par un car de transport en commun en provenance de Bamako pour Koro. Selon des témoignages, le bus s'est renversé aux environs de 9h près de Badjangara. L'incident serait lié à un excès de vitesse ainsi qu'à la surcharge. Autre titre de l'actualité, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de maintien de paix est arrivé à Bamako dimanche. Pendant sa visite de 5 jours, Jean-Pierre Lacroix va parler de la prorogation du mandat de la mission onusienne avec les autorités maliennes. Son séjour sur le sol malien intervient à seulement quelques jours de l'expulsion du désormais ex-porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. Le point avec Sally Sissoko.
C'est dans l'après-midi de ce dimanche que son avion a atterri sur le tarmac de l'aéroport international. Président Mouribou Keïta de Bamako, c'est nous. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix entame ainsi une visite de 5 jours au Mali pour échanger avec les autorités de la transition sur les récents rebondissements liés à la mission de l'ONU au Mali, a annoncé ce vendredi Farah Hak, porte-parole adjoint de l'ONU. Jean-Pierre Lacroix discutera avec les dirigeants maliens de la prorogation d'une année du mandat de l'AMINUSMA récemment adopté par le Conseil de sécurité, a-t-il poursuivi. Il faut souligner que le gouvernement malien a dénoncé la non prise en compte de ses recommandations dans ce nouveau mandat de la mission onusienne avant de réitérer son opposition ferme à la liberté de mouvement de l'AMINUSMA dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. Cette visite du secrétaire général adjoint de l'ONU intervient aussi après la suspension depuis le 14 juillet 2022 par les autorités maliennes de toutes les rotations de contingents militaires et policiers de l'AMINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées jusqu'à la tenue d'une réunion sur cette question. Ainsi, la mission onusienne a indiqué qu'elle est prête à engager sans délai les discussions prévues.
Parlons à présent de la mise en place de cet organe qui crée toujours débat. Il n'y a pas eu de consensus entre le gouvernement et la classe politique sur les modalités de désignation des 4 membres des partis politiques qui siégeront au sein de l'autorité indépendante de gestion des élections. Ces échanges organisés jeudi dernier par le département de l'administration territoriale se sont déroulés sous la présence de l'émissaire de la CDAO, Goodluck Jonathan. Le point avec Mahamadou Samasekou.
Ce scénario était prévisible, estiment les partis membres du M5-RFP. Le président du pôle politique pour le consensus propose de faire une nouvelle loi électorale. Djambil Bitar, membre du M5-RFP.
Nous l'avons signalé depuis l'adoption de la loi, comme quoi il y avait plus de 200 formations politiques. Et si les 200 formations politiques devaient choisir 3 personnes pour siéger au niveau de l'EJ, et que ce n'était pas possible et ce n'était pas réalisable. Et nous, notre position est claire. clair. Nous demandons de passer à la 4e République, faire une nouvelle loi électorale.
Le cadre d'échange des partis pour une transition réussie estime qu'il n'y a pas eu de blocage. Le problème est plutôt lié au fait que la majorité des partis ne s'est pas prononcée sur les modalités, affirme Seydou Amadou Touré, membre du cadre d'échange.
Chacun a donné son point de vue. D'aucuns ont prôné pour le regroupement des partis, d'aucuns ont prôné pour le tirage au sort, d'aucuns ont prôné pour l'appel à candidature. Mais la tendance qui a remporté aujourd'hui, c'est ceux qui se sont prononcés par rapport au regroupement des partis politiques. Donc ça risque de se passer comme ça. Sinon, nous n'allons jamais nous en sortir. Quand on demande à 200 et quelques partis de se prononcer sur une situation aussi sensible et qu'on n'a même pas la moitié, je suis acteur politique, mais ça m'a choqué parce que ça veut dire que ça n'intéresse pas.
Seydou Amadou Touré affirme qu'une autre rencontre est prévue cette semaine avec le gouvernement. Par ailleurs, dans un communiqué, le cadre d'échange à cause des propos tenus par Choguel Kokla Maïga a demandé sa démission immédiate de son poste de Premier ministre.
Après cette discussion du gouvernement avec les partis politiques sur les modalités de désignation des membres qui vont siéger à l'autorité indépendante de gestion des élections, la discussion s'est poursuivie avec la société civile. Parlons à présent des résultats scolaires de fin d'année. Le ministère de l'Éducation nationale a démenti le communiqué indiquant la proclamation des résultats du DEF, diplôme d'études fondamentales, ce dimanche 24 juillet. Cependant, il rassure que tout est fin prêt pour la proclamation des résultats d'ici la semaine prochaine. Kinan Agadega, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, est au micro de Aboubakrine Agmohamedine Yatara.
J'affirme ici que cette lettre est une force. Le ministère de l'Éducation nationale est dans la logique effectivement de terminer avec tous les processus de correction et de contrôle avant de soumettre les résultats au chef du gouvernement. C'est seulement après la validation de cette instance que nous procédons à la proclamation des résultats. Les académies sont toutes dans la phase de vérification et dès qu'elle sera terminée, nous allons procéder au reste du processus jusqu'à la proclamation. Selon les informations qui nous parviennent des académies, c'est juste les académies de Bamako et de Kalabankoro qui n'étaient pas totalement prêtes en fin de semaine. Je pense bien que probablement en fin de la semaine prochaine, on sera capable de proclamer les résultats du DEF.
La communauté catholique du Mali a procédé ce dimanche 24 juillet à l'ordination de deux nouveaux prêtres. C'était lors d'une cérémonie d'ordination presbytérale qui s'est tenue au Palais de la Culture de Bamako. Selon les curés, l'ordination presbytérale est la célébration au cours de laquelle un homme devient prêtre en recevant le sacrement de l'ordre. Il reçoit ainsi la mission de conduire l'Église, de célébrer la plupart des sacrements, à l'exception du sacrement de l'ordre réservé à l'évêque. Abbé Marcelin Diarra, curé responsable de la paroisse Sainte-Monique, est au micro de Madougou Aga Hamada et de Abdoulaye Touré.
Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer le sacerdoce. Voilà, qui dit sacerdoce dit pour nous ordination presbytérale. Donc ce sont des jeunes qui vont s'engager définitivement à la suite du Christ aujourd'hui. Quand on dit église, ça veut dire communauté. Ils seront des serviteurs de cette communauté qui s'est réunie aujourd'hui et qui sera témoin de leur engagement. Ils seront chargés de l'organisation de la communauté et de la guidance aussi de la communauté. Ils deviennent à partir d'aujourd'hui vraiment des serviteurs de Dieu.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, commençons par le nord du pays. En Songo, une cinquantaine de leaders communautaires, dont des jeunes et des femmes, ont préparé un forum sur la paix et la cohésion sociale dans le cercle. Le thème choisi pour cette rencontre est le rôle et responsabilité des jeunes et des femmes dans l'organe de décision de la paix et la cohésion sociale. Les participants sont venus des communes de Bara et d'Ansongo. La session a été organisée par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS. Dans Songo, allons à Koulikoro où la caravane de sensibilisation sur la santé de la reproduction à l'intention des jeunes et des adolescents a pris fin vendredi dernier, intitulée Keneya Yalaba. Keneya Yalaba, cette caravane de deux jours visait à informer et sensibiliser cette couche sur la planification familiale, les infections sexuelles transmissibles. L'objectif était d'éveiller une conscience générale chez la cible concernée. L'activité a été atteint, selon Psy Mali, plus de 62 000 jeunes et adolescents à travers le Mali ont été touchés par cette activité. Terminant par Massina, où la population a dénoncé la cherté du prix du mil dans la ville ainsi que dans les zones de Kolongo. Vendu à 20 000 francs CFA au mois de mars dernier sur le marché, le sac de 5 kg de mil est cédé aujourd'hui à 40 000 francs CFA, soit une augmentation de 20 000 francs CFA. Selon les commerçants, cette hausse s'explique par la rareté de cette denrée ainsi que l'insécurité grandissante dans la zone. Les populations alertent sur un risque de famine dans cette zone de l'office du riz. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Nous vous direz assurer la technique. Ne décrochez pas car l'info continue. Comment améliorer l'efficacité des politiques publiques sur les changements climatiques à travers la contribution de la société civile? La question était au cœur d'une rencontre tenue cette semaine à Bamako. La télé de 5 jours a été organisée par le consortium Benkadi. Ce programme vise à influencer les politiques du dérèglement climatique au Mali. Le magazine Parlons de l'environnement est présenté par Mahaman Babakunta.
Le magazine Parlons de l'environnement.
La rencontre a regroupé des participants venus de nombreuses localités du Mali. Les discussions ont porté notamment sur les phénomènes du changement climatique et l'amplification des bonnes pratiques de gestion durable des terres. Mohamed Camara, chargé des projets du programme Benkadi au Mali.
L'objectif de cette session, c'est renforcer les capacités des ONG partenaires de mise en œuvre de Benkadi au Mali. Il y en a 8 pour les 3 régions et qui évoluent dans les 24 communes. Donc on a par exemple comment prendre l'intégration des changements climatiques dans nos planifications locales au niveau des collectivités, le genre et l'inclusion sociale par rapport au changement climatique, la contribution nationale déterminée, qu'est-ce que les collectivités peuvent y faire là-dedans, le plaidoyer lobbying, une de nos armes, on peut le dire fatale, pour pouvoir atteindre le plus de publics cibles, les droits humains, tout ça c'est des mesures, des options techniques qu'on veut faire passer dans nos zones d'intervention pour beaucoup plus de résilience aux communautés visées par le programme Benkadi.
Le programme Benkadi intervient dans 24 communes des régions de Koulikoro, Bougouni et Djoïla. Il vise à accompagner les personnes vulnérables, ajoute Mohamed Camara.
Ce programme est là, c'est pour aider les communautés cibles au Mali à travers les régions de Koulikoro, notamment à Kolokani, la région de Bougouni et la région de Djoïla. Dans 24 communes, nous essayons de mobiliser les collectivités, les populations vulnérables, femmes, jeunes, personnes vivant avec un handicap, pour qu'ensemble, on puisse influer sur nos décideurs politiques, de faciliter, de prendre des mesures fortes qui permettent qu'on puisse changer de comportement.
L'initiative est saluée par les ONG partenaires. Des responsables de ces ONG estiment que les connaissances recueillies vont leur permettre de mieux sensibiliser les groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes ou les personnes vivant avec handicap. Boubacar Sidibé, coordinateur de l'ONG CARD.
Il y a eu beaucoup de thématiques qui ont été enseignées et surtout vraiment la gestion des conflits. On va essayer de faire la démultiplication au niveau de nos communes respectives. Parce que quand tu vois aujourd'hui, il y a 8 ONG qui sont interpellées pour vraiment mener des activités au niveau de la base, au niveau des 24 communes. Nous, quand même, nous visons les groupes vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Nous, nous voulons beaucoup les sensibiliser pour que vraiment leurs préoccupations soient prises en compte dans les PDSEC, particulièrement par rapport à la réforestation et par rapport à la gestion durable des terres. Le programme a démarré il y a un peu longtemps, donc on n'avait pas ces données-là. C'était des arguments pour nous, pour pouvoir vraiment mieux maîtriser les thèmes sur le terrain. Et je pense qu'avec cette formation, on est beaucoup mieux outillés pour faire passer notre message.
L'environnementaliste Souri Ibrahim Asso du bureau d'études La Lumière invite aussi les populations à mieux s'impliquer pour parvenir à une meilleure riposte face au changement climatique.
On ne peut pas mettre fin au changement climatique. Peut-être pour les collectivités ou surtout la population, c'est de pouvoir adopter des attitudes pour pouvoir s'adapter plutôt à ces phénomènes-là. Sinon, on ne peut pas concrètement lutter contre totalement le changement climatique parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, mais cela dit, les gens peuvent adopter des comportements qui vont les aider à s'adapter face à ces phénomènes-là, soit à l'atténuer ou en tout cas à s'adapter tout court face à ces phénomènes de changement climatique.
C'est ce qui met fin à ce magazine Parlons de l'environnement réalisé et présenté par Mahaman Babakunta. À la semaine prochaine pour un autre numéro.